Chers amis, avant de parler de Mars et de tout ce monde mystérieux qu'il y a derrière ce terme dont je vous parlerai pas ce soir parce que ce n'est pas l'endroit, et enfin avant de vous faire sentir ce qu'est Mars, et je parle surtout maintenant pour ceux qui ne sont pas eux-mêmes versés tant soit peu dans la science de l'astrologie, je suis porté d'instinct à penser que dans ces auditoires, il y a un élément nouveau, et je l'espère, un élément jeune. Et c'est surtout à cet élément que je m'adresse. En me disant toujours que si les jeunes peuvent découvrir ce que l'astrologie leur propose et leur donne à la condition qu'ils le cherchent, ils trouveront une réponse au plus grave problème de leur nature, la force de subir les épreuves inévitables de la vie, parce qu'ils en comprendront la signification. Dans l'usage courant, les jeunes le savent encore mieux que les aînés, lorsqu'on est frappé par un grand chagrin, un chagrin dramatique, déchirant, les arguments pour l'expliquer, sinon le justifier, pour vous fortifier, sont assez maigres, terriblement maigres. Et c'est une des raisons du drame de notre jeunesse. C'est que peu d'entre eux qui sont vraiment intelligents, et il y en a, sont très exigeants. Eh bien, je leur dis à cette jeunesse, par une expérience serrée de 20 ans en astrologie, que j'ai travaillé avec toute assiduité et à laquelle j'ai donné mon âme, parce que j'ai découvert qu'elle était vraie. Et que là, s'ouvraient pour nous tous les horizons de la philosophie propre à l'homme et toute la religion. Et par conséquent, les rêves. Pas toujours agréable, mais quand on sait vraiment pourquoi une chose arrive, on est déjà armé. Le plus terrible, c'est d'être condamné à mort et fusillé à 5 heures du matin sans jamais savoir pourquoi. Alors ça arrive à des quantités de gens. Eh bien, je voudrais bien que mon propos ce soir aide quelques personnes parmi les jeunes, ils vont être fusillés, de savoir pourquoi, de le savoir. Et ils seront étonnés de la force d'exaltation que ça leur apporte. Mars est une planète, bien entendu, du système solaire. Mais c'est aussi une planète du système solaire géocentré. Et c'est ce Mars-là qui nous concerne. Enfin, c'est Mars. Et avant de commencer, comme je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont une sainte frousse de Mars, ils y voient volontiers l'ennemi, le grand bousculateur, le faiseur de tremblements de terre, ils y voient un élément d'hostilité déclaré ou sourde, ils y voient l'ennemi, secret ou public, bref, ils y voient la cause de toutes les guerres. L'idée que Mars est guerrier, l'idée que c'est une planète qui est rouge, couleur de sang, qu'elle dévore le sang des hommes, qu'elle en a soin. J'ai lu ça dans de l'astrologie anglaise du 19e siècle. C'est pour ça que j'en parle. Tout ça est absolument faux. Certes, car c'est une puissance magnifique, docile, et qui va obéir à vos grandes planètes, c'est-à-dire à vos autres grandes faculté, aux autres puissances de votre nature, elle va obéir. C'est ça qui est bon. Seulement, si l'appel de l'autre planète se fait par quadrature, il y a un élément de brusquerie, un élément de maladresse, un élément d'inaptitude, parce qu'une quadrature, par exemple, entre Uranus et Mars, tous les astrologues le savent, fait que Mars répond à Uranus avec une docilité ô combien grande, mais elle aussi, parce que c'est Uranus, avec une rapidité qui le fait littéralement ramper devant le grand maître. Alors voilà pourquoi si souvent nous avons des accidents que l'on attribuera à Mars, ou d'autres diront non, mais c'est Uranus. Mais pas du tout. Ce n'est ni Mars ni Uranus, c'est la combinaison des deux. Il s'agissait tout simplement que vous n'ayez pas fait la gaffe de naître avec le carré Uranus, carré Mars. Et si vous êtes né avec un Uranus devant, carré un Mars, c'est assez exactement carré, vous pouvez vous gratter la tête et vous dire, eh bien, il faut croire que j'ai mérité ça. Et je m'en vais en fait. Ça me promet des explosions d'énergie. Eh bien, pourquoi? Si je sais bien qu'à un moment donné, il y a de la surchauffe, pourquoi est-ce que je m'en servirais pas intelligemment? Ou en tout cas, me mettre en garde. C'est trop de richesse. L'énergie martienne emmenée comme ça, l'homme ne tient pas le coup. Beaucoup d'accidents de ski et d'autres sont dus à cet aspect. Alors de là que le populo dise « Mars, t'es méchant, t'es redoutablement méchant, et qui n'y voit pas grande bonté », on sait aussi que dans les opérations nécessaires de chirurgie, le rôle de Mars est souvent très capital. Il est assez certain que sa position, si il est dans une position où les grands astres, ou même les petits, exigent beaucoup de lui, il est très certain qu'il va vous déchirer les boyaux. Oui, oui. Il va vous donner même une situation pulmonaire qui vous entraînera facilement au terrain de la tuberculose. Mais ça, toujours, lorsqu'il est ce qu'on appelle affligé en lui-même, c'est une des forces cosmiques dans laquelle rien n'avancerait. Et je vous fais toucher tout de suite du doigt la vérité de ce que j'avance. Combien peu de personnes se rendent vraiment compte que c'est dans le signe du Capricorne et que Saturne, mon Dieu, Saturne est grave, mon Dieu, Saturne est plein de caution, n'est-ce pas? Et puis il est là. Bon, mais c'est quand même Saturne, quand tout est dit, qui est là pour permettre un jour l'exaltation de Mars. À un certain point de vue, Saturne est le serviteur de Mars. Alors, comme Saturne est notre sauveur à tous, puisqu'il nous assure l'équilibre, en quoi tout est perdu. Alors, comment voulez-vous que Mars soit autre chose qu'une magnifique et généreuse puissance? Comment voulez-vous? Voilà la première chose que je voulais dire. Maintenant, je parle maintenant pour ceux qui n'ont aucune initiation à l'astrologie, qui en sont curieux, mais qui sont chargés de scepticisme. Comme moi. Il y a 22 ans, j'étais bourré de scepticisme. En vérité, il a fallu que je sois acculé, ma tête acculée par les vérités astrologiques graduellement, pour être forcé de les reconnaître. Il m'arrivait chaque année, au début, me dire au bout d'un moment, non, quand même, c'est pas vrai, non, c'est autre chose, c'est une coïncidence, c'est mal compris. Mais non, en se donnant la peine d'y aller voir, ça collait. Alors, mon force a été de m'incliner totalement et de faire de cette science la règle même de toute mon existence. C'est bien pour ça que je suis ici ce soir. Eh bien, c'est un peu pour ces esprits qui était dans l'état où j'étais. Et je vous dirais bien que cet état aurait été abrégé, puisque je m'en vais vous dire maintenant, au départ, avait été très clair dans mon esprit. Alors, et voici ce que je vais dire. Mes chers amis, prenez une belle feuille de papier blanc, puis un compas. Tracez un cercle, comme celui-là. Vous aurez tout de suite deux choses. Vous aurez le point central, le noyau du cercle, et vous en aurez les rayons. Et vous aurez donc le cercle, et vous aurez le noyau. Mais tout ce qui est important, c'est le noyau. S'il y a un noyau dans un cercle, vous disposez de quelque chose d'énorme. Vous disposez d'un centre de gravité commun à toutes les forces de votre nature. Si, dans ce cercle, vous placez toute votre nature, c'est-à-dire tous les astres de votre propre système solaire, naturellement géocentrés, c'est-à-dire entièrement emboîtés dans ce cercle qui est, en principe, la Terre elle-même, mais en réalité aussi, c'est vous-même. Vous êtes ce cercle. Et si vous vous en... C'est ça qui est important. C'est beaucoup plus important ça que les astres. Vous êtes ce cercle. Mais vous êtes mieux, vous êtes le centre de ce cercle. Et si le centre représente ici les puissances qui jouent sur l'espace qui va à la périphérie, ça représente la puissance de l'être et son individualité jouant avec son existence qui lui est présentée par la périphérie du cercle. Le centre de gravité commun à tous les astres est absolument essentiel pour rendre concevable, intelligible, la puissance des aspects entre deux planètes. Il n'y a aucune espèce de moyen pour vous de démontrer, en mettant un mouvement de vos astres, de deux de vos astres, par rapport l'un à l'autre, de démontrer qu'à une certaine date, l'un exigera plus de l'autre. Il n'y a aucune façon de démontrer ça. D'avoir donc la preuve que l'astrologie est vraie, si vous n'avez pas le centre de gravité commun à ces astres, et si par une ligne, vous ne reliez pas ces deux astres à ce centre, tel que je l'ai fait dans mon premier livre, pour habituer les gens à bien comprendre que l'astre n'est pas collé là, parce que les éphémérides disent qu'il est dans tel signe et tel degré. Ce n'est pas du tout pour ça qu'il est là. Il est dans les signes, le signe en question et le degré, mais ça n'a de valeur, ça, que si vous l'incorporez dans un cercle et que vous le liez au centre. À ce moment-là, c'est vous, en puissance et en acte. Et vous n'avez, mes chers amis, les jeunes, vous cassez la tête à vous dire, mais comment est-ce que ça fonctionne là? Les arts sont bien lointains, bien vagues. Vous n'avez qu'à vous amuser à faire ce que je vous propose. Par exemple, je vais vous donner deux exemples de ça. Vous prenez l'éphéméride. Et puis disons que c'est pour votre jour de naissance à vous, n'est-ce pas? Donc, pour votre thème natal. Et vous y mettez le Soleil, et vous y mettez Mars. Car enfin, nous parlons de Mars. Et puis vous les mettez à 90 degrés l'un de l'autre, et Mars est devant. Et naturellement, vous les reliez. L'un sera, disons, par là, le Soleil, et l'autre sera par là. Disons que le Soleil soit en 4 et que le Mars soit en 7. À 90 degrés du cercle. Et vous aurez là un magnifique carré de Mars au Soleil. Et l'astrologue qui voit ça se dit, ce bonhomme-là doit assez souvent embêter les autres, peut-être. Il doit être souvent fort agité et déborde, enfin il est plein d'entreprises. Faites le feu. Surtout dans les signes de terre et de feu. Mais, ça vous les placez là, pour votre anniversaire. Et vous avez un beau carré. Et vous vous dites, mais mon Dieu, est-ce que ça peut, par quel mécanisme est-ce que ça peut jouer? Eh bien, vous voulez la preuve que ça va jouer? Vous avez atteint l'âge de 30 ans. Votre soleil a progressé en progression dite secondaire de 30 degrés. 1 degré par an en moyenne. Il atteint maintenant la position dite sextile. Il est à 60 degrés de ce Mars. Au moment où le soleil, et ça va durer presque une année, ça, car son mouvement est très lent, c'est le soleil. Au moment où le soleil va rentrer en sextile avec Mars, il y a là un éclatement d'énergie qui ne connaît presque aucune borne de la maladie. Et qu'il faut mettre vraiment cet homme en état d'anesthésie, quelquefois, parce qu'il pourrait être un peu foufou. Alors ça arrivera mathématiquement, à l'âge de 30 ans, Mars à votre naissance est carré exact à votre soleil. Une autre démonstration, je prends cette fois-ci Mars en maison 4, au pied du cercle, et je mets en 7 la planète Pluton. Je les relie au centre de gravité commun à ces astres. La simple géométrie du sommet d'un triangle. Je vois ce Mars en 4, Pluton en 7, et la puissance de Pluton est multipliée par rapport à celle de Mars. Les exigences de Pluton sur ce Mars sont absolument fabuleuses. Bien. Je sais que quand j'ai ça, maintenant je retiendrai. Il faudrait que vous reteniez bien ce que je m'en vais dire. Parce que si Mars vraiment a été affreusement méchant dans l'histoire du monde, il a été certainement participateur, efficient, pour ébranler des guerres et des émeutes, et que là, dans cet aspect, il est souvent obligé d'employer son énergie pour la destruction de quelque chose, la destruction de son semblable, car Pluton va exiger ça, et surtout quand il est dans la maison 7, qui est la maison de l'autre. Dans la maison de l'autre. Périodiquement, cela va se manifester. Mais le jour où Pluton, ayant fait 30 degrés, sera sextile le Mars, alors attention, il ne faut se garantir que rien. Vous aurez souvent un homme qu'il faudra littéralement enfermer dans une maison de santé. Et vous aurez là des aspects spécifiques de la criminalité la plus virulente et la plus brutale et la plus soudaine, car avec Mars, c'est soudain. Voilà, c'est le fait. Je vous ai donné deux faits. J'aimerais encore souligner, pour ceux qui aiment saisir le jeu de l'énergie un peu plus près, que quand Mars est en avant du Soleil, il lui fait carré. Il y a là, de la part du Soleil, l'obligation d'un effort. Il faut qu'il monte. Oh, c'est une montée, c'est pas une défaite. Mais quand c'est Pluton au carré de Mars, c'est l'obligation d'une descente, et d'une descente souvent extrêmement foudroyante. Car si l'on dit qu'il est tellement facile de retomber dans les erreurs passées, et tellement difficile de grimper à une certaine puissance de caractère, c'est précisément pour cette raison-là. En réalité, la bataille que nous avons avec nous-mêmes pour nous soulever au-dessus de nous-mêmes tient à ce que, antithétiquement, et par derrière et dans notre nature, suivant les aspects de notre Pluton, celui-là nous fait dire que tout est très lourd, très pesant, très inerte, et nous donne un effort spécial pour monter. Maintenant, ceci dit, et j'aimerais avoir 2 heures pour en parler, que tout le monde soit à tête reposée. Ceci dit, précisons un peu ce que représente Mars dans votre thème. Eh bien, il représente tout simplement l'effort. Là où il y a effort, il y a Mars. Là où il faut se donner de la peine, il y a Mars. Et ceux qui ne peuvent pas se donner la moindre peine et faire le moindre effort n'ont pas ce qu'on appelle un excellent Mars. Même un aquatique. C'est aussi le principe du courage. C'est le principe de l'initiative, de l'esprit d'entreprise. Un bon Mars, bien aspecté, vous donnera toujours un esprit d'entreprise. Et quand vous aurez les raisons d'être entreprenant, vous aurez Mars à votre disposition. C'est un astre, une force de notre nature, qui assure beaucoup de caractère, même quand quelquefois il nous assure des piquants vis-à-vis des autres. Et les gens qui ont des piquants sont des gens de caractère. Il n'y a qu'à voir le cactus. Précisément, et scientifiquement parlant, nous sommes en face avec Mars. Vous me direz, mais ensemble, pourquoi Mars? Or, n'aurions-nous pas pu, puisque l'ensemble de ce système solaire, que nous sommes aussi si parfaitement, n'aurait pas pu se passer de lui, n'aurait pas aussi bien marché? Mais bien sûr que non. Tout est absolument à sa place et indispensable. Parce que, voyez-vous, je viens à une force dans notre nature qu'on appelle l'inertie. Qu'est-ce que c'est que l'inertie en physique, simplement? Ce terme vient de là. L'inertie, ça ne veut pas dire être un corps inerte, un corps mort. Ça, c'est la conception populaire. L'inertie, c'est une certaine, certain mouvement, mais qui reste toujours égal à lui-même. Toujours égal à lui-même, qui n'avance, qui ne s'accélère pas. Et qui tendrait plutôt, vu les frictions de l'existence, à diminuer. L'inertie, c'est ça. Et il y a, en vous regardant, des forces dans votre nature qui sont à l'état inerte. C'est-à-dire, elles sont excellentes, peut-être, mais vous ne vous en servez pas assez. Vous ne les accélérez pas. Elles sont là comme des princesses dormantes. Il y a Mars. Et Mars, par rapport à l'inertie, c'est le principe de l'accélération. C'est le grand accélérateur. Et il n'y a que lui pour faire de l'accélération. Les grandes planètes se chargent, se confient à lui. Les grandes planètes, Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune et Pluton, la vitalité même du Soleil et le magnétisme de Vénus, et tous ces astres comptent sur Mars pour donner de la vitesse, pour accélérer la vie, accélérer les sentiments, accélérer le génie. Il y a des gens qui ont du génie, qui le savent. Mais mon Dieu, pour s'en servir, il y a mille raisons pour attendre, surtout dans le pays vaudois d'un temps. Mais il y a Mars. Et tout à coup, on a des démangeaisons de faire quelque chose de son génie. Voilà la valeur précieuse de Mars. C'est l'accélérateur. Où qu'il est, où qu'il soit, dans votre thème, sachez qu'il représente le centre, le ressort d'accélération, le départ d'une vitesse plus grande que celle à laquelle vous êtes accoutumé. Sans doute vous choirez de nouveau, bien possiblement, dans une certaine lenteur coutumière. Toujours le mouvement, la vie, c'est le mouvement. Vous retrouverez votre rythme habituel. Mais de nouveau, Mars, dans ses mouvements tous les deux ans, vous attrapera par le collet et vous accélérera périodiquement. Et rien n'est plus intéressant que de suivre son mouvement tous les deux ans et de voir à quel point il accélère vos qualités ou... Après les avoir laissés pour s'occuper d'autre chose, vous retombez un peu dans le train-train vite. C'est l'accélérateur. Et la façon dont vous faites démarrer votre automobile, voyez-vous la voiture automobile, mais la façon dont vous faites démarrer votre auto, dit tout de suite la qualité de votre Mars. Parce que quand il s'agit de démarrer, il ne s'agit pas de Jupiter, il ne s'agit pas d'autre chose. Démarrer, c'est changer de vitesse. Et pour changer de vitesse, il faut votre Mars. Et par exemple, vous donnez une gifle à votre mari, que c'est une chose que vous faites quelquefois et qui vous surprend même quand vous le faites. Hein. Soyez tranquille, ça c'est Mars. Vous avez accéléré quelque chose, vous avez trouvé trop inerte chez lui. Vous avez fait ça. D'ailleurs, regardez les claques que le nouveau-né reçoit du gynécologue. Alors, j'aime autant vous dire que les claques qu'il reçoit, c'est précisément le Mars du gynécologue qui compte sur le Mars de l'enfant pour réagir. Regardez la valeur précieuse de cette énergie. Lorsqu'il est en aspect avec Jupiter, tous les deux toujours reliés au centre de gravité qui se trouve au centre du thème et qui est vous, sans autre forme de procès, c'est vous. Vous n'allez pas chercher midi à 14h un tas de livres. Vous faites ça en 5 secs. Et c'est vous. Eh bien, je vais vous donner un exemple de ça. Quand vous êtes tranquillement dans le train-train, l'inspiration du Sagittaire, le feu divin de l'Olympe jupitérien ne vous vient pas. Oh non. Qu'est-ce qu'il ferait là, sur vous? Votre train-train, c'est votre train-train. Mais que tout d'un coup l'accélérateur en vous soit mis en marche, et bam! Quelquefois, le dieu de l'Olympe descend vous apporter une inspiration. Formidable. Vous n'avez qu'à regarder votre vie. Ceux d'entre vous ont reçu quelques inspirations notoires et de voir à quel point il y a eu l'action de l'accélérateur avant l'inspiration et pas après. Et j'ai un exemple frappant de ça dans un cher ami défunt aujourd'hui, un grand poète américain, M. Baccaré, à New York. Il me raconte, lui c'est un dramaturge né, c'est un des plus grands écrivains de l'Amérique contemporaine, c'est surtout un grand poète, un grand dramaturge et aussi et surtout avec ça un grand philosophe. Bon. Eh bien, il me raconte que montant la 5e avenue, inutile de vous dire qu'avec ça, il est un grand nerveux, ce qui déjà le prépare à du mars dans sa vie et lui prépare à recevoir l'inspiration. Car les grands nerveux sont des gens dont il faut se méfier, car quelquefois, à travers leurs nerfs, il y a du Mars qui joue, surtout quand Mars est dans la Vierge ou dans les Gémeaux. Et encore dans le Sagittaire, et encore dans les Poissons. Parce que dans le signe où est Mars, il y a du mouvement, il y a de l'accélération. Alors, il monte la 5e avenue, simplement, allant à son fameux club, au milieu de l'avenue. Et puis quand il veut changer de trottoir, ce magnifique club étant en face, voilà qu'il y avait là une jeune femme avec son inévitable toutou et sa laisse, et que mon cher ami très distrait, c'est comme on dit ici, encoublé dans la laisse. Un patatras sur le sol, voilà Mars. Car vous ne faites pas un patatras sans Mars, mon cher ami. Vous avez mal su employer sa force. Il tombe sur le sol et du même coup, un coup de foudre lui arrive. Pour une pièce de théâtre, tout un drame inonde son cerveau. Toute une pièce de A à Z. Il se relève, il va à son club. Il est resté jusqu'à 2 heures du matin. Il avait écrit tout le schéma principal d'un de ses plus grands drames. Ça, je dirais qu'il l'aurait fait tôt ou tard. Oui, probablement. Pas nécessairement. Les conditions de l'inspiration sont, appartiennent à elles et nous ne pouvons pas les forcer. Mais enfin, voilà Mars. Il a fallu l'accélérateur vif, très vif et brutal pour l'inspiration. D'ailleurs, chez lui, étant assez brutal de nature, c'est-à-dire assez vif de nature, assez instantané de nature, je présume que l'emploi de son Mars était une façon de faire venir l'inspiration. Je crois que nous avons dans la salle ici un homme dont je ne mentionnerai pas le nom, mais ça me vient maintenant à l'esprit, qui est caractérisé souvent par une certaine agitation nerveuse avant que l'inspiration lui arrive. Et c'était pour moi, au point de vue de la science, des énergies en jeu, c'était toujours pour moi une excellente leçon. Mais je continue, et je vais vous donner maintenant, on pourrait dire, oserais-je vous dire en passant, vous suggérer de méditer le fait que Mars, par son engagement accéléré dans les choses, se brave, cette brave énergie, qui vraiment ne doute de rien et ne demande qu'à être employé, vous élargit le champ de votre cœur, parce qu'alors votre cœur est bien obligé de le suivre, n'est-ce pas? Parce que ça vous amène aussi des choses et des gens dans votre vie dont immédiatement votre cœur peut faire litière. Le cœur, c'est le magnétisme. Mars, c'est l'électricité, si j'en veux, des analogies de ce sens. De sorte que ce n'est pas en étant inerte que vous développez la vie de votre cœur. C'est en étant accéléré que vous développez la vie de votre cœur. Alors, l'accélération qui développe votre cœur, est-ce que cela vous surprendra si je vous dis que Mars, ça sera votre futur Vénus? Et que votre Vénus, chérie, c'est votre ancien Mars. Dans l'ordre de l'incarnation. Et enfin, je veux, il faudra bien que je finisse le temps passe, et je suis chargé de faire autre chose ici. Mais ceci est tellement capital, et on a besoin d'y voir clair, et de ne pas être sentimental et crédule, bon Dieu de Dieu. Les livres ont dit, pour une fois, les livres qui parlent de la tradition ne se sont pas trompés. C'est dans le signe du Capricorne que Mars trouve son exaltation. C'est Saturne qui travaille pour cet exaltation. Qu'est-ce à dire? Est-ce vrai? C'est absolument vrai. Et je vous en donne une preuve instantanée. Tellement simple. Alors cette opération, c'est pas une fois pour toutes. Aucune des opérations prototypiques de l'autre de la vie ne se font une fois pour toutes. Elles grandissent en dimension périodiquement pour aboutir finalement à leur position archétypale en fin des temps. Mais regardez-vous dans votre vie, avec vos enfants par exemple, avec l'un de vos enfants, ou avec vous-même. Il y a en vous, vous voulez atteindre un but. Ah, voilà l'ambition. Vous voyez, vous voulez bâtir quelque chose. Vous voyez, maintenant, ça, c'est le Capricorne. Vous voulez faire quelque chose de solide, de réalisé de votre existence. Ouais. Pour ça, il faut bouger. Il faut se démener. Mais dans les gestes et les choses que vous faites, dans les efforts que vous faites, il y en a qui vous plaisent. Alors cela, vous les faites abondamment. Il y en a d'autres qui te plaisent. Alors cela, vous tâchez de le faire le moins possible. Alors maintenant, regardez la structure d'une pyramide. Avec le maître, disons ici, Saturne au sommet. Et puis le Mars chargé d'être l'entrepreneur qui fait marcher les maçons sur une ligne horizontale qui graduellement est supposée aller vers le fait. Mais quand on bâtit une maison, il faut qu'elle soit en équilibre. Mais vous voilà, vous. Oh, vous faites très bien sur le côté droit de cette pyramide. C'est tellement facile pour vous. C'est du plaisir. À un moment donné, il y a Saturne qui dégringole de là-haut. Le grand architecte, il vient vous dire, dis donc, coupe un peu, ça fait trop. Ça allait trop loin. C'est pas une maison, c'est une caricature de maison que tu serais en train de construire. Allons, ramasse ça. Mets ça dans la perspective normale du sommet et de la base. Et alors, à ce moment-là, généralement, mes amis, ça nous arrive à tous. Et à tous. Sans nous en rendre compte, nous avons exagéré du côté qui nous plaisait le plus et qui était la ligne de moindre résistance. Il y a un moment dans notre vie où Saturne, l'architecte, dit « Oh, mais on a un peu trop glissé sur le côté. Il va falloir rectifier ça ou bien tout l'édifice va faire patatras. » À ce moment-là, vous avez des larmes aux yeux. À ce moment-là, vous dites, la vie est dégoûtante. La vie vous frustre. La vie, c'est une charge épouvantable. C'est tout simplement que l'architecte a rectifié votre excès. Et moi qui vous parle, je viens de le vivre encore depuis 3 mois d'une façon formidable, puisque j'ai Saturne transitant mon ascendant Verseau en opposition à lui-même dans le lion, en 7, et dans les deux positions, il est carré exact la Vénus en 3. J'aime autant vous dire que l'expérience est une chose absolument excitante et inoubliable. Et que je vis avec une intensité particulière le deuxième mouvement du quatrième concerto de Beethoven, qui est fait de ce chant de l'âme parlant son destin. Son destin. Répondant. Deuxième mouvement du quatrième concerto de Beethoven. Eh bien, mais d'autre part, vous vous dites, oh ben, je n'avais pas le goût de m'étendre ici autant que je l'ai fait là. J'ai laissé beaucoup de choses en friche en bâtissant cet étage-là. Ça m'embêtait, c'était compliqué, ça demandait des calculs spéciaux. Moi, je suis un sentimental, je ne fais pas de calcul. De l'autre côté, je pouvais mettre un tas de sentiments parce que je faisais des décorations et j'oubliais cette partie de droite. L'architecte descend. C'est le jour de la grande inspection. Et il dit, eh bien, eh bien alors, si tu as été trop loin de ce côté, tu n'as pas été assez loin là. Alors, mon petit ami, c'est bien ça. On arrête tout. Mais alors, on arrête tout. Jusqu'à ce qu'on soit définitivement mis à faire la partie de droite égale à la partie de gauche. Voilà ce qu'exige le principe d'équilibre cosmique qui est en nous tous et qui s'appelle Saturne. Voilà ce qu'il exige. Voilà à quoi il est prêt. Voilà pourquoi c'est lui qui dira à l'entrepreneur Mars, « Eh bien maintenant, mon cher, tu as fait les choses exactement comme il fallait les faire. Et nous sommes tous les deux maintenant au fait de cette pyramide. Eh bien maintenant, on se tire la révérence. Tu es exalté, tu n'as plus rien à faire. Ton travail est fini, il est merveilleux. Bon, fini. Mais puisqu'il est fini, ben maintenant, tu peux te laisser vivre tranquillement. Tu n'es plus à être rappelé dans l'arène de ce thème. Et c'est ça le sens de l'exaltation. Oui. Maintenant, je vais finir, puisque j'ai parlé trois quarts d'heure. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Mars, dans les signes, on ne fait pas le tour maintenant. Faire ça un peu bien ou pas du tout. Mais comprenez bien que Mars est chez lui dans ses propres signes de bélier, de scorpion. Comprenez que lorsqu'il est dans un signe mental comme le Gémeaux, eh bien, il est sous la coupe du maître Mercure, et que par conséquent, ici, l'accélérateur va travailler à propos du mental, par le mental et pour le mental. S'il est dans le cancer, il va travailler par et pour les émotions, la sensibilité. S'il est dans le lion, alors là, naturellement, il doit fonctionner, l'accélérateur qui commande, le lion toujours commande. Alors il doit encaisser la responsabilité que l'initiative est ne demander l'aide de personne. Avez-vous jamais vu un thème avec Mars dans le lion, où la, si le Mars n'est pas trop affligé, peut-être surtout quand il est affligé, la personne ne demande jamais de l'aide, elle ne fera jamais aucune mendicité psychique, morale ou physique. Elle ira jusqu'à ce qu'elle crève. Moi, j'ai connu une vieille dame de 85 ans en Amérique qui, à cet âge-là, c'est parce qu'il marchait étant femme et un peu infirme. Mais alors, elle était bélier comme nature. Et elle avait un Mars du tonnerre. Eh bien, peu de fois, j'ai voulu, en voyant qu'elle avait laissé tomber un livre, un papier, courir dessus pour le ramasser. Madame, jamais de la vie, elle le faisait elle-même. Elle n'a jamais appelé personne pour ramasser ce qui était tombé. Mars, Lyon, on faisait ça soi-même. Dans la balance, c'est le plus faible endroit pour Mars. Il est un peu vraiment là, pas très à son aise, loin de là. Car là, il dépend de l'autre. Dans le bélier, c'est lui qui est tout. Je suis la vie, je suis l'accélérateur de cette âme qui a voulu l'incarnation pour s'accélérer et pas pour traîner en arrière. Je m'en vais l'accélérer. Bon. Alors, vous comprenez, dans la balance, je dis, bonté divine, je suis dans la maison de l'autre, dans le signe de l'autre. Alors, je dépends de ce que l'autre est, d'abord, et enfin, je dépends de ce que l'autre veut de moi. Et voilà pourquoi il est le grand oscillateur, un accélérateur oscillant. Là-dessus, je m'arrête. Vous vous doutez l'immensité du sujet et combien passionné. Et vous vous doutez, j'aimerais, puisque nous sommes dans une société éminemment d'éthique et de spiritualité, et en même temps d'énergie psychique, croyez bien que la semaine prochaine, quand vous aurez la médium française que je connais, Madame Lydia, qui vous demande quelques démonstrations, croyez bien que son Mars est engagé, car si son Mars n'était pas engagé, son accélérateur, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien, ça resterait mollusque, ça resterait flou, ça resterait imprécis. Et l'accélérateur est en jeu, et pour ceux d'entre vous alors qui sont déjà passionnés d'astrologie, je rappelle que le trigone qu'envoie Mars à Neptune, il reçoit de lui, surtout qu'il l'envoie, c'est un des aspects où l'énergie, l'accélération, va pour les choses les plus hautes dans le plan de l'âme de cette personne. C'est plus haut, c'est plus haut. Évidemment, si Neptune et Mars fait carré à Neptune, nous avons des problèmes. Parce qu'alors là, Mars ne comprend rien. Neptune, c'est trop pour lui. S'il n'a pas encore été dûment saturnisé, s'il n'a pas fait sa maîtrise fédérale d'architecte et d'entrepreneur, et il va faire des boulettes. Et on blâmera Neptune parce qu'on est idiot. C'est la faute de Mars. Ça veut dire, dans l'ordre de distance des forces, Neptune est plus près de la périphérie, Mars est à l'intérieur du cercle. Donc c'est Neptune qui l'appelle. Et dans la conjonction, cette puissance martienne identifie momentanément avec un des éléments de la qualité de Neptune. Un des éléments seulement, car Neptune, c'est un monde. Et il faut dire que Mars, parce qu'il est l'accélérateur, parce qu'il est en conjonction, il n'a pas des soutiens énormes par ailleurs, cette conjonction. Eh bien, il est peut-être quelquefois incapable de faire appel à votre mentalité, à votre mercure, pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe. De sorte que quelquefois, je dis quelquefois, nous pouvons avoir là un aspect de transe ou de médiumnité prononcée, mais alors, il faut le dire, si c'est Neptune, de la meilleure qualité, si c'est Pluton, de la pire. Nous aurons tout le monde astral inférieur si c'est Pluton conjoint Mars. Et nous aurons le monde astral supérieur si c'est Neptune conjoint Mars. Il n'y a pas d'affliction à ces deux astres. Voilà la situation. Deux choses. D'une part, l'accélération développe le cœur. Ça me fait penser justement à la... Je pense que tous ceux qui ont entendu faire un yoga, ça fait penser immédiatement au karma, c'est-à-dire à la voie de l'action. C'est-à-dire donc le principe dynamique et Mars développant les facultés du cœur. Et puis secondo, votre bonhomme qui s'est étalé vers Mars d'en venir l'inspiration, c'est tout de suite pense également à certains exercices zen, l'illumination arrive par un coup de marteau ou un choc, irruption subite en soi, n'est-ce pas, à la vision de quelque chose.
On m'a laissé, je ne connais rien vraiment de M. Gurdjieff et de son école, bien que j'ai des élèves plus ou moins à Paris qui en font alors très certainement partie. Il paraît que une partie de la technique de Gurdjieff était de créer un choc psychique, bousculade psychique, parce que hors de cette bousculade, quelque chose allait arriver. Un vide créé, une rupture d'équilibre. Il n'y a pas à dire. L'équilibre pur et simple, c'est l'inertie. Et l'inertie est synonyme beaucoup de ce qu'on appelle la mort. Pour que les choses arrivent, il y a une rupture d'équilibre. La preuve, c'est quand vous marchez, vous êtes tout le tour en rupture d'équilibre. Vous vous rattrapez au pas suivant. Mais quand vous faites de la bicyclette, vous êtes tout le temps en rupture d'équilibre, rattrapé. La vie, c'est de l'équilibre instable, toujours récupéré. Pour faire cette récupération, non, pour la créer, avant de la récupérer, il faut marcher. C'est la grande fonction de marcher. Alors.
Le chrétien meurt de présenter son propre petit Mars. Alors, M. Vouga veut bien nous donner, nous expliquer quelques exemples pris sur le vif.
Oui.
Y a-t-il parmi vous, les droites et les gauches, quelqu'un qui aimerait se faire analyser son propre Mars? Avez-vous déjà votre thème? Donc, pour une fois, vous montrez un courage qui vous étonne tous.
Alors, cette dame, qu'est-ce qu'elle a? Alors, attendez. Procédons par ordre. Nous avons deux demandes.
Une, attendez, alors, c'est gauche et droite. Alors, on alterne par un. Voulez-vous la situation générale ou simplement la position de Mars dans son titre et dans sa maison?
Je veux toutes les positions. La seule me donnera la clé des aspects qu'il a. Alors, je vais l'interpréter uniquement.
Alors,
l'adolescence, et M. Genillard est assez bon pour pouvoir immédiatement, dans les éphémérides de votre année, repérer pour midi la position des planètes.
Alors, si vous êtes d'accord, on vous prendra en troisième position, enfin, droite, gauche, et ensuite vous. Vous êtes d'accord? Parfait, puisqu'on a déjà le travail fait, ça ira beaucoup plus vite que je puisse cette table en l'air.
Non,
votre maman martien. Oui. Alors, voulez-vous vous.
Oui, oui.
Bien,
donnez-moi les planètes.
Alors, comment
sur l'énergie et sur le sens.
Alors, Uranus, 24 Capricorne. En descendant, Lune, 9 poissons.
Lune, 9.
Saturne, 1, bélier. Vénus, 27 béliers. En gémeaux, Mercure, 1.
Vous avez dit, vous avez parlé de gémeaux.
Oui, dans les gémeaux maintenant, Mercure, 1 degré.
1 gémeaux.
Soleil, 9.
Gémeaux.
Oui, toujours. Et Pluton, 26. Toujours gémeaux.
Pluton, 26 gémeaux.
Cancer.
Oui.
Neptune, oui. 17, 37.
17, 17 cancer.
Du cancer. Oui. Et Mars, 18 cancer.
Ah, voilà la conjonction.
Parfait et sur le descendant. Donc sur le point de la maison 7.
C'est quelqu'un de dame au fond. Toutes les planètes sont là?
Non, il y a encore Jupiter dans la balance, à 4 degrés.
Jupiter, 4 balances. Voilà, nous y sommes maintenant.
Oui.
Je médite à quoi. Alors, Jupiter et 4 balances.
C'est-à-dire,
faisons envie. Ce qu'il faut savoir, ce que peut valoir le Mars. C'est une dame?
Oui.
Bon. Que peut valoir le Mars du cancer de cette dame? Au point de vue de sa façon de s'accélérer, d'augmenter la vitesse de sa vie, par moment en tout cas. De produire quelque chose, de se faire remarquer fatalement par les autres, car remarquer qu'on ne se fait remarquer que si l'on bouge. Alors là, le mouvement, c'est ça. Et voilà le Mars, c'est lui qui nous intéresse. Voilà. Alors forcément, ici, Neptune l'appelle. Et Neptune le fascine. Ça vous a une certaine incontestable noblesse, ça. En principe, c'est ça. Voyons maintenant ce qu'il en est. 18 du cancer. 18 du cancer, rien dans les gémeaux, non. Non. Bélier, la Vénus, 27, hein, ta. Non. Bon, 27, c'est du degré. La Lune, ah oui, alors la Lune entre en jeu, et elle entre en jeu par un trigone à Mars, comme à Neptune. Car il faut lui donner certainement ses ordres-là. Chose intéressante, alors ici, Mars a un problème. Ici, ça va très bien pour lui. Pour ce qui est du Mars lui-même, hein, il est dans le cancer, et dans le cancer, il faut que la sensibilité soit éveillée pour qu'il s'ébranle. Comme moi-même, je l'ai là, j'en sais quelque chose. Et puis, comme c'est le signe de la protection maternelle, le cancer, on a quelquefois peur de se lancer, et on exagère parce que la lune est en jeu, les émotions sont en jeu, les images qui vous viennent à l'esprit exagèrent les possibilités dramatiques négatives, alors on prend beaucoup de temps avant vraiment de s'ébranler. Ça, c'est un mars du cancer. Avec ça, dans ce cas-ci, il a un problème. C'est la position d'Uranus. C'est à 6 degrés la position d'Uranus. Ah, il l'a. Il veut dire que M. Mars, alors maintenant, je vais dire quelques mots en m'asseyant de nous, que ce M. Mars, voyez-vous, si vous regardez la chose ésotériquement, il s'est mis à côté de la robe de la Sainte Vierge. Marie, la Mère divine, a une robe d'une ampleur merveilleuse et il trouve tout naturel de se jeter dans les plis de cette robe, trouvant que ça, c'est épatant, que là, il trouve sa fin finale et il ne demande qu'entraîner tout le thème à ça. Seulement, et là, l'audace, je tâche de rendre ça maintenant anthropomorphique un peu, pour vous dramatiser la situation. Il a eu l'audace d'avoir Uranus contre lui, c'est-à-dire Uranus à l'autre bout. Eh mon Dieu, il ne faut pas que Uranus, qui ait tous ses acquis du passé, ses lauriers du passé, n'est-ce pas, ses vrais lauriers, il ne faudrait pas qu'il soit dans une position de les oublier, simplement parce qu'il est littéralement... Parce qu'ici, à cause de l'opposition à Uranus, on dira que c'est une affliction d'avoir la conjonction Neptune, car il est forcément fasciné au-delà de toute raison. Il croit qu'il est arrivé, que tout est en ordre, et Uranus lui dit, mais mon cher, eh bien, tu t'en offres des illusions. C'est très joli ce que tu fais là, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a encore d'autres choses à faire? Et c'est à moi de te les dire. Alors, périodiquement, il y a l'Uranus qui reprend le dessus, et le Mars devient déconfit. Et à ce moment-là, il sort en quelque sorte des plis de Neptune, et il se dit, non, mais j'ai quand même été un peu trop fort. Je me suis quand même imaginé que j'allais avoir le paradis final, et ça ne se fait pas tout simplement comme ça. C'est le problème du Mars de cette femme. Elle est dans la salle, elle ne voudra pas répondre, peut-être. C'est vous? Vous reconnaissez ça, madame?
Non, pas tellement.
Bien, vous allez y penser. Vous allez y penser parce que c'est subtil, j'aime autant vous dire que c'est subtil, et il est difficile de mettre ça en parole. En parole simple, en parole simple. Vous compliquez ça. Bien mon Dieu, pourquoi est-ce que vous paraissez si peu, si simple? C'est qu'en somme, vous avez d'autres larves qui sont dépassantes, je crois. Vous avez d'autres larves qui sont dépassantes. Et vous avez là un Mercure, et mon Dieu, le soleil trigone, le Jupiter, vénard que vous êtes. Alors c'est la douce et belle existence. Et puis vous les avez sextile, le Saturne, qui est leur personnage raisonnable, vous faites. Alors vous comprenez avec ça. Mais attention, vous avez quand même Vénus qui s'est laissé arriver Uranus. Alors de temps en temps, c'est vous, les explorations du cœur dans la jeunesse surtout, ne se sont pas inspirées d'une toile de fond médiocre. Bon. C'est bon, passons. Alors laissez venir votre Mercure pour que tout se clarifie. Maintenant, on a remis quatre thèmes.
Bon, Dieu.
Donc, attendez, c'est vous qui allez choisir. Voulez-vous un Mars conjoint au Soleil dans le Scorpion? Préférez-vous un Mars conjoint à Uranus dans les Gémeaux?
Je préfère le Mars conjoint à Uranus dans les Gémeaux. On en parle plus facilement. Les Gémeaux, c'est clair. La carte est sur table. Dans le Scorpion, c'est dans une commode, vous comprenez? Alors, allez trouver un Mars conjoint au Soleil dans le Scorpion. C'est en fait une autre histoire.
Alors, vous voulez... Main.
Oui.
Alors, c'est une jeune fille qui est née le 2 janvier 44. Elle est née le 2 janvier 44. Bon, allons-y. Alors, commençons
par... Soleil Capricorne. Bon.
Ouais. Voilà, bon, commençons par le Soleil. 11 Capricorne.
11 Capricorne, oui.
Mercure, 24 Capricorne.
Mercure, 24 Capricorne, oui.
Et on saute dans le Bélier, la Lune à 7.
7 du Bélier.
Oui.
Lune 7 Bélier.
C'est un thème rêve, c'est pas simplement un ciel, c'est un thème calculé.
Oui, oui. Bon. Ascendant 27 euros.
Non, ça demande pas, c'est
bien. Alors, Mars.
Vous allez par rapport au sens, tout est là, par rapport au sens.
Et Uranus à 5 degrés des Gémeaux.
Ah bon, Mars. 5 Gémeaux, Uranus. Devant lui,
Esther, Mars,
5 Gémeaux.
Voilà.
Voilà ensemble, et quelle autre planète?
Saturne, 22 Gémeaux.
Saturne aussi. Mon Dieu, le pauvre Saturne, il avait vraiment besoin d'être là. Un frein, tout ça.
Assureur des choses.
Ah, oh, quel...
Pluton, 8 degrés, Lion.
Lion?
Oui.
Pluton, 8 Lion.
Jupiter, 26 Lion.
Jupiter, 26 Lion.
Neptune, 4 degrés, Balance.
Neptune, 4 Balance. Cette personne est née de Victoria. Elle a dû être née autour de 1943. 44.
Vénus, 29 degrés du scorpion.
Et Vénus est dans le 29e du scorpion, oui, évidemment, le 29e du scorpion. Et quoi encore?
Ça suffit, je crois, pour une malheureuse. Alors, si c'est terrestre.
Ouais. Alors, nous avons le Mars ici, 5 Gémeaux, point Jean-Laurent les 5 Gémeaux. Et maintenant, nous avons le sextile de cet astre. De ces deux arcs d'ailleurs, avec le Pluton à 8 Lion. Bon. Si vous avez encore un sextile, je vois du bélier, de la lune bélier, qui est sous la maîtrise de ce fameux Mars. Alors voilà, la lune qui est sextile Mars et Uranus. Eh bien, elle ne s'embête pas, c'est sûr. Et puis, vous avez, attention, 26 Lion, non, ça ne colle pas ça, et 26 Jupiter, 26 Lion. Sextile de Saturne. Magnifique. Alors, Trigone et Platon. Le Mars à Neptune. Voilà. L'Uranus à Neptune. Oui. Et là-haut, Soleil Capricorne.
Là-haut, il y a 30-90 degrés, plus Soleil-Lune.
40 Capricorne de la petite Mercure, je laisse tranquille dans ce compte.
Il y a le sextile Mercure-Vénus.
Mais il y a surtout le grand carré. De la Lune, ça nous entraîne le Soleil. Ça, c'est une des grandes clés de ce thème, évidemment. Ah oui, mais tout est ramené. Alors ici, vraiment, on peut dire que tout est ramené à cette marque. C'est beau, c'est vrai.
Oui, c'est très cool. Oui. Et votre carré tombe encore là, oui. Du Soleil sur Neptune, qui est opposé à la Lune.
Ah, vous avez bien raison. Ah bien, oui, alors voilà. La position, la Lune, ça en est. Alors oui, alors ça fait toute une histoire. Comment alors, sinon ça demande du thème.
Je dirais à cette dame que ce Mars des Gémeaux est dans le signe nerveux par excellence, qui est le signe des Mercure, le signe de l'extraversion du mental, que l'Uranus à côté fait beaucoup trop d'énergie combinée. C'est rien. En principe, c'est pas commode. Mais madame a un facteur de chance énorme ici. Elle en a même deux. Elle a que le Mars fait un trigone à Neptune. Alors, il y a écoulement de cette surabondance d'accélération Mars qui répond tout le temps à la puissance d'Uranus qu'elle recherche. Et elle ne veut rien faire qu'il ne soit pas semblable à ce grand seigneur. Mais c'est trop. C'est trop à la fois. Mais, je répète, grâce au trigone de Neptune, Uranus aussi, eh bien, Mars sait où faire déboucher. Dans les grandes conjonctions de deux ou trois as, il est souverainement important qu'il y ait un trigone qui peut dégager ça, ou autrement, c'est presque un embouteillement d'énergie. Et puis, de l'autre côté, il y a la Lune dans le bélier, alors sextile ce Mars. Alors vous comprenez la sensibilité. La sensibilité ne voudrait pas non plus que Mars exagère trop. Alors la sensibilité informe l'accélérateur qu'il faudrait quand même ménager l'équipage. C'est ce qui l'aide beaucoup. C'est pour ça, et le trigone à Neptune. Mais il y a encore quelque chose d'autre. Le Mars de cette dame est dans les Gémeaux. C'est un Mars qui est extrêmement, qu'elle a bougeotte.
sous les caveaux qui se serrent, et du mercure, pour ouvrir au mercure toute espèce de choses. Ils accélèrent le mercure à tout bout de champ et cherchent à le conduire à l'Uranus. Le mercure ne s'embête pas, seulement il est dans le Capricorne. Et mon Dieu, ce type mercure, il y a des moments où il en est un peu éberlué et il bat 36 chandelles. Il y a une chose qui retient ce Mars, c'est le sextile à Pluton. Il y a un sextile comme ça avec un Pluton dans le lion. C'est que Mars se dit, mon non. Si je m'affirme trop, quelqu'un va me casser la figure un séjour. Je n'ai pas arrivé entièrement à ce que je veux. Alors, autant rester tranquille. Il y a une certaine étonnante immobilité de l'accélérateur, quelquefois, dans un sextile semblable. Et les exigences du lion suractivées d'une façon hypertrophiée par le Pluton. Moi, je suis le lion et je suis un super lion. Mais mon Dieu, ça prend tellement d'importance que l'action ordinaire serait fade à côté. Et qu'on se dit jamais on ne pourra employer son Mars comme on aimerait vraiment l'employer. Voilà une astuce pour expliquer dans les signes mentaux, Gémeaux et Lion, je pense, pourquoi il y a une retenue de l'énergie, une retenue. Mais c'est une personne, évidemment, dont il n'est absolument pas banal. On ne peut pas être banal avec une combinaison pareille. Elle pourrait être très, très soumise à des très grands risques de maladie et d'accident. Il y avait des quadratures du côté du poisson, par exemple, à ce Uranus-Mars. Il n'y en a pas. C'est un sextile. C'est très bien, ça. Or, on pourrait encore dire une chose, madame, à Vénus 29 du Scorpion. C'est donc dire que Vénus est presque un du Sagittaire. C'est donc dire que Vénus est opposition Mars. Bien, mon Dieu, cette personne, évidemment, emploie son Mars pour satisfaire son génie uranien beaucoup plus fréquemment qu'elle emploie son cœur. L'accélérateur est plus grand que le stationnaire. Vous la connaissez, mademoiselle Mélan, cette personne? C'est juste? Encore un. Nous approchons de l'heure. On espère avoir maintenant. Voulez-vous un verre de notre eau? Quelle eau?
Mais en tout cas pas.
C'est l'eau de la commune?
Oui.
C'est l'eau de la ville?
Oui.
Je me méfie de la ville de Lausanne, 100%.
Minéral, peut-être oui, qu'une de ces dames aurait un bonbon.
Non, non, je n'ai pas de bonbon.
Non, les bonbons, non.
Pourriez-vous dire peut-être
que. Non, je n'aime pas ça.
Trois mots pour couper les analyses. Disons la valeur de Mars en première, en 4, en 7 et en 10. Bon, alors très bien, très volontiers, et je finirai là-dessus. Il faut que les gens aient gardent l'appétit à la fin d'un repas. C'est la seule façon de vraiment être en état de santé et de vouloir y revenir. Alors, on va y arriver. Alors, mes chers amis, Mars en première maison, et quel que soit le signe. Car après tout, il y a l'homologie absolue entre la maison et le signe naturel. Là, parce que c'est une loi cosmique, loi de l'atome, ce qui est première maison répond à ce qu'on appelle aussi le premier signe, le bélier. Même s'il n'est pas là, il y a cet élément qui est là derrière. Bon, eh bien, quand vous avez Mars dans la première maison, vous êtes une personnalité qui est portée tout naturellement à accélérer son mouvement dans la journée, à accélérer tout de suite dès qu'elle se lève, à accélérer son existence, à se servir des éléments dont elle dispose, sa pensée par exemple, son mental, cœur, l'enthousiasme, si elle l'a aussi, et tout ça pour s'accélérer. C'est ce qu'on appelle la forceful person. C'est une personne qui, si le Mars n'est pas agité, pas affligée, sera très vivante. Mais notez bien ceci, elle sera très vivante parce qu'elle sera toujours portée dans sa personnalité, par une puissance
d'initiative, de courage et d'accélération. Je reviens à ça. Car vous savez, s'accélérer, c'est toujours du courage. On ne s'en doute pas assez. Et dès qu'on s'accélère, il faut du courage. Il y a bien des gens qui ne s'accéléreraient pas s'ils ne savaient pas les risques qu'ils courent. S'ils savaient les risques qu'ils courent à s'accélérer. Eh bien, voilà le Mars de la première maison. Et comme c'est après tout sa position aussi organiquement naturelle, il n'y a pas mal d'hommes à ce qu'il soit là. Pas du tout. Il est sans affliction. Il soutient quelque chose dans la cinquième maison par un trigone. Il est soutenu par une planète dans la neuvième maison par un trigone. C'est un magnifique Mars et la personnalité de cette personne est vraiment vivante. Voilà. Elle est vivante. Autrement dit, elle dispose instantanément à son éveil. Matin. Ou à son éveil si elle s'assoupit dans la journée. Elle dispose de cette énergie incroyable qui est Mars. Le moteur commence à renfler tout de suite. C'est Vénus qui est là à la place. Oh, mais c'est pas du tout la même chose. Rien n'est plus charmant que d'avoir Vénus dans la première maison. Parce que Vénus est une puissance magnétique. Oh, elle se démènera jamais si elle est laissée à elle-même. Elle se dira, j'y suis, j'y reste et qu'on vienne à moi. Et ce sera une personnalité qui sera attrayante. Combien attrayante, qui sera magnétique et qui aura un ascendant magnétique, première maison, sur les autres, certains autres capables de l'apprécier. Elle fait venir, Vénus fait toujours venir à soi. Avec Mars, on va chez l'autre. Voilà. Quatrième maison, Mars, je l'aime moins là. Bien qu'il peut être aussi très utile. Et naturellement, j'en parle comme s'il n'était pas du tout affligé. Le seul fait qu'il est en quatre. Il est dans la maison du pied de la croix. Il est dans la croix cardinale de nouveau. Il est en réalité tout le principe des origines de la famille et de l'inextricable tissu et tapisserie des liens familiaux avec tout ce que ça peut comporter. Il est là. Bien mon Dieu, là, il sera très entreprenant à la maison. Il aura aidé maman beaucoup. Le fait qu'il aura mieux fait que ça, il aura pris l'initiative de faire des choses pour elle. Pas affligé, en quatre, il fait toute espèce de choses à la maison. C'est là qu'il connaît tout naturellement le déploiement de son accélération. Il ne demande qu'à ce qu'on l'emploie. Voilà, le Mars de 4. Malheureusement, ça peut devenir assez vite grave d'avoir le Mars en 4 pour la raison qu'il y en a trop de ces Mars qui sont affligés. Le Mars en 4 signifie affligé. Il y a des chances que vous allez avoir un petit garçon, déjà ou petite fille, et sûrement dans votre adolescence, à vous bagarrer avec l'un de vos parents. Vous serez une sorte de bagarreur et en même temps vous serez bagarré. Parce que votre Mars-là attirera la réplique. Sauf que la vie de l'enfance, si rien ne contrebalance ça, ne sera pas si heureuse. À moins que l'enfant soit bâti de telle façon qu'il adore la bagarre. Il ne vit que par ça. C'est autre chose. Maintenant, en la septième maison, alors là, ça devient vraiment sérieux. Ah, ça devient vraiment névralgique. Parce que dans la septième maison, c'est la maison qui n'est pas la sienne à soi. Et certainement pas de Mars, la première, c'est la maison de l'autre. Et l'autre là, qui est représenté par le principe magnétique de la Vénus de la balance, l'autre là, Mars est là, et il se dit, tiens, mais si je suis là, c'est qu'il y a des raisons et que je dois avoir quelque chose à faire avec une Vénus. C'est pas pour rien que je suis en balance. Je n'ai même pas dit, je n'ai pas même que le monde est en balance, mais enfin, on le sait. Bon, la septième Mars est très bien que ça, au principe de la balance. Et puis, il est en sept. Donc, en sept, il va avoir à faire à l'autre, c'est-à-dire le conjoint, il y en a. Mais il va aussi avoir affaire à vos associés d'affaires, pas les amis, mais aussi d'affaires. Mais il va affaire avec les gens que vous rencontrez dans la rue. Ça, c'est aussi la septième maison. Et puis, vous, rappelez-vous toujours qu'il n'y a de bataille que par la septième maison. Les guerres sont des matières de septième maison. La guerre ouverte, c'est ça. Alors, un Mars dans la septième maison, il n'est pas du tout affligé et qu'il a des débouchés. Il faut qu'il sache ça. qu'il ait quelque chose à faire avec son énergie. Quand vous voyez un garçon surabondant, vous cherchez tout de suite, où est-ce que je peux faire dériver cette surabondance d'énergie? Alors voilà, le Mars en fait, attention, il va cogner. Il va cogner, ça ne s'arrêtera pas. Il va cogner parce que les choses vont se présenter à lui subjectivement pour qu'il voie qu'il y aura un plaisir à s'accélérer en tapant sur l'autre.
Alors, il est quelquefois guerrier. Mais peut-être dangereux quelquefois pour les autres.
Et pour lui-même, il peut s'attirer bien des mauvais coups. Maintenant, Mars en 10. C'est une magnifique position pour Mars. Pour la simple raison que c'est le signe du Capricorne à la base, que c'est votre ambition, votre deuxième, ce sont vos aspirations, que le principe de l'équilibre et de l'architecte saturnien est toujours là, et que Mars est vraiment à l'œuvre dans un élément qui veut l'exalter, veut qu'il arrive à la fin de son travail et qu'on n'en parle plus, et que ce soit fait. Alors Mars en 10 montre une insatiable capacité de se remuer pour arriver.
Et voilà vos quatre
Alors merci encore M. Bougain pour sa magistrale leçon d'astrologie.